J'ai 6 cerveaux, en fait.
Leur CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
On est de retour à l'émission, un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'en ayant côtoyé des gens qui vivaient cette situation-là, je sais à quel point ça peut être particulier mentalement, du côté émotionnel aussi, certainement du côté physique. Avez-vous un proche ou avez-vous déjà vécu de l'errance médicale? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire avoir des maux particuliers, réels, vivants, qui t'impactent au quotidien, d'aller demander à faire des tests, à nommer comment on sent, mais de ne jamais avoir une réponse claire sur ce qu'on a pour être capable de le traiter puis soulager au quotidien sa vie dans ses maux physiques. Là. Pour en parler, une jeune femme extrêmement courageuse qui a décidé justement de livrer un message que la population du Québec a bien entendu dans les dernières heures. C'est ça qui est fascinant. Ça veut dire que peu de gens qui vivent cette errance médicale en parlent au point où ils sont capables de jaser entre eux puis de se comprendre, de ne pas se sentir seule. Elle s'appelle Émilie Servant, elle est devant moi. Salut Émilie.
Allô Pascal, merci de me recevoir.
Merci à toi, en fait, de venir ici en studio. Tu sais, il faut le dire d'avance, on se connaît.
Oui.
Toi et moi, on a travaillé ensemble pendant plusieurs années, on est liés d'amitié.
Oui.
Puis, par le fait que tu travailles pour une autre boîte médiatique,
oui.
J'ai laissé cette boîte-là avoir le premier mot sur l'histoire que je trouve hautement importante. Mais je dis qu'on se connaît parce que ça fait des années, moi, je le vois et que je le vis par procuration quand
ouais.
tu m'en parles, que tu as des enjeux de santé puis qu'on trouve pas ce que tu as.
Exact.
Puis, je trouvais ça très épeurant et aliénant à certains moments, puis c'est même pas moi qui le vis. Est-ce que tu veux nous raconter un peu, c'est quoi ton histoire, en fait?
Oui, absolument. En fait, depuis 2019 que je vis ce dont tu viens de parler, de l'errance médicale. J'ai commencé à avoir certains symptômes en 2011, donc ça fait déjà plusieurs années. J'ai fait en 2011 ma première péricardite.
Qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous écoutent?
C'est l'inflammation de la péricarde, donc c'est l'inflammation de l'enveloppe du cœur. Donc, je l'ai fait la première en 2011, ensuite j'en ai fait une deuxième en 2019. C'est vraiment ce moment-là où j'ai débuté le grand parcours, le chemin assez ardu de l'errance médicale. Puis depuis ce temps-là, j'ai, t'sais, mes principaux symptômes, c'est de la difficulté respiratoire, des douleurs et de la faiblesse musculaire, puis une importante fatigue.
Et là, tu es rendue à quel âge, Émilie?
34 ans.
34 ans, ça veut dire que ça fait plus d'une dizaine d'années
ouais,
que tu es là-dedans. Là,
absolument.
Au moins 13 ans, si je calcule bien. Au départ, quand arrive la péricardite, est-ce que tu dis, mon Dieu, j'ai juste été malchanceuse?
Oui, absolument. En fait, c'est avoir une péricardite dans la vingtaine, je pense pas que ce soit complètement fréquent, mais moi, j'en avais jamais eu avant, puis j'en ai pas eu non plus entre 2011 et 2019. Donc, en 2011, moi, j'avais... J'ai vécu ma péricardite, puis ensuite, je passais complètement à autre chose, pensant que le problème était réglé. C'est sûr que là, à partir de 2019, j'en ai fait quand même, je pense, au moins quatre. Là, je veux pas quatre ou cinq. Là.
Ça se manifeste comme une crise du cœur?
Ben, c'est vraiment une douleur au cœur. Oui,
okay.
Exactement, vive, qui rend la respiration assez difficile.
Tu étais au top du début de ta vie professionnelle lors de la première.
Oui.
Tu adores ce que tu fais. C'est
oui.
extrêmement exigeant. Tu te lèves aux petites heures du matin pour faire ton travail.
Oui.
Tu es un oiseau de nuit dans ta job, disons-le.
Oui.
Ça a des impacts assurément sur bien des sphères dans ta vie.
Oui.
Mais de sentir mal physiquement puis de sentir une grande différence dans tes capacités respiratoires, mm-hmm. musculaires et autres, au quotidien, mentalement, ça doit être difficile aussi.
Mentalement, c'est difficile. C'est sûr que j'ai l'extrême chance d'avoir une santé mentale assez solide, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Donc, je me considère extrêmement privilégiée. J'ai tendance à voir, puis tu me connais, Pascal, le verre à moitié plein plutôt que l'inverse. Donc, c'est sûr que mentalement, je le vis quand même bien. Là, en ce moment, je suis en arrêt de travail depuis déjà quelques mois. C'est sûr que ça, c'est difficile. Tu viens
de
le dire.
C'est pas le premier arrêt de travail que tu vis, là?
Non, c'est pas le premier arrêt de travail. Je pense que j'ai vraiment étirer l'élastique aussi longtemps que je le pouvais. Je suis arrêtée pour la première fois en décembre 2022. Donc, ça faisait déjà trois ans que j'étais là, dans l'errance à avoir des rendez-vous, des tests à chaque semaine, là, de nombreux tests.
Chaque semaine, parce que chaque tu semaine. Voulais trouver ce que tu avais. C'est absolument. Les professionnels qui t'orientaient vers ces tests-là.
Oui, absolument. J'ai la chance, encore une fois, d'avoir un médecin de famille qui est très, très présente puis exceptionnelle. Donc, elle m'a dirigée vers différents spécialistes, m'a fait passer
elle
différents tests.
Elle
t'a cru, elle? Oui, 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 absolument. Là, c'est ça, ça fait... Heureusement, il y a des spécialistes, des médecins de famille qui nous croient, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas de tous.
Tu as vécu ça à travers ta batterie test. Qu'est-ce qu'on t'a fait faire, en fait, comme test pour essayer de trouver ce qui se passait avec toi et ta santé?
J'ai passé différents scans, j'ai passé des biopsies, des prises de sang. Honnêtement, pas mal tous les tests auxquels tu peux penser, là, je les ai faits.
Il n'y a rien qui ressortait de ces tests-là?
Il y a des choses qui ressortaient. En fait, le problème, c'est que chaque symptôme... Chaque manifestation de cette maladie-là, dont on n'a pas le nom encore, mais ensemble, ça ne fait pas une maladie qu'on connaît. T'sais, les difficultés respiratoires sont documentées, on le voit dans les tests. Les faiblesses musculaires, même chose. On les voit, c'est écrit noir sur blanc. Mais ensemble, tous ces symptômes-là, mais ça ne fait pas une maladie qui est connue. Donc, c'est une maladie qui est assurément extrêmement rare. J'ai encore espoir qu'on va finir par la trouver, mais pour l'instant, il n'y a pas de nom à ce que j'ai. Là.
J'ai accroché à un moment où tu as dit, heureusement, moi j'ai une médecin de famille qui me croit et elle fait partie de mon parcours.
Oui.
Est-ce qu'il y a des moments où on ne t'a pas cru?
Oui, absolument.
Par des spécialistes de la santé?
Oui, absolument. Puis honnêtement, moi, avant de vivre l'errance médicale, je n'avais aucune idée de ce qu'était l'errance. Comme je te dis, j'ai passé beaucoup de tests. Moi, faites-moi faire ce que vous voulez. Je veux trouver ce que j'ai. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Mais ne pas me faire croire par les spécialistes, ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Je ne suis pas quelqu'un d'hypochondriaque. Je ne suis pas quelqu'un qui exagère mes symptômes.
Non, au contraire, tu les as cachés longtemps.
Je les ai cachés longtemps, puis je les minimise encore au quotidien, vraiment beaucoup.
Ah, je suis capable de faire ça. Combien de fois je t'ai entendu?
Ouais, c'est ça.
Là, on voit, Émilie, non, je pense que tu files pas.
Je pense que c'est ça, ça va pas. C'est ça. Je suis plus de ce type-là que l'inverse. Donc, moi, je n'ai jamais pensé au fait que des spécialistes, des médecins que moi, je mets sur un piédestal parce que c'est des gens qui sont extrêmement compétents, intelligents. J'aurais jamais pensé qu'on ne pouvait pas me croire. C'est malheureusement arrivé.
Ça se manifestait comment?
Bien, en fait, on me passait beaucoup de commentaires. On m'a dit que j'étais trop souriante.
Pour être malade?
Exactement. C'est beaucoup ça qui est revenu. On m'a dit que j'étais trop sympathique aussi pour être malade.
Tu es dans le bureau d'un spécialiste. On te fait faire un test. Puis là, vu que tu es de bonne humeur parce que tu es toi.
Parce que je suis comme ça.
Probablement aussi qu'il y avait un certain espoir, en fait, en étant dans ce bureau de spécialiste-là. Bon, peut-être ça va être le bon sur lequel on va être capable de mettre un diagnostic. Ouais. Mais on te dit ça. Ah, Émilie, Madame Servant, vous êtes trop souriante pour être malade.
Oui, on m'a dit que j'avais pas l'air malade, on m'a même dit que je faisais trop de blagues. On m'a reproché mon humour.
Mais c'est ta façon, toi, de décompresser. Oui. C'est fascinant parce que puisque je te connais, je suis capable de trouver que ça n'a aucun sens qu'on t'ait dit ce genre d'affaires-là.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, on a remis en doute ma personnalité. J'ai fini par douter de... Mais Colin, tu sais, je suis peut-être trop souriante ou j'ai peut-être pas la bonne approche.
As-tu douté de ton mal physique?
Oui.
Parce qu'on
Oui, j'en suis venue à douter. Je me suis dit, Colin, est-ce que j'ai si mal que ça? Est-ce que je suis si fatiguée que ça? T'sais, est-ce que tout le monde est fatigué comme ça? T'sais, j'en suis venue à la conclusion que non, c'est pas tout le monde qui a si mal que ça. C'est pas tout le monde qui se lève le matin ou qui dort pas de la nuit parce qu'il a trop mal aux jambes. T'sais. C'est ça. Mais j'en suis quand même venue à douter. Puis je sais que mes douleurs sont réelles, que ma fatigue est bien réelle, que mes difficultés respiratoires le sont aussi. Mais oui, malheureusement, avec les commentaires de certains spécialistes, j'en suis venue à douter de ma personnalité puis de mes symptômes. Là.
Quand on te disait ça, Émilie, admettons, t'es trop souriante, tu fais trop de blagues pour être malade, est-ce que tu répondais aux spécialistes? Est-ce que tu trouvais le courage de faire ou t'étais subjuguée?
Première fois que c'est arrivé, j'étais absolument subjuguée. Je m'attendais absolument pas à ça, comme je disais plus tôt. Je savais pas du tout comment réagir. C'est pas arrivé plus d'une fois, malheureusement. Donc, les autres fois, je répondais, je disais, ben je suis comme ça, c'est dans ma personnalité. Puis on vient aussi à être un peu sur la défensive, ce qui est pas du tout mon genre, mais... Puis j'en suis devenue aussi craintive de rencontrer de nouveaux spécialistes. Et je me suis dit, mon Dieu, est-ce que cette personne-là va aussi me juger?
Est-ce que c'était
juger?
Mon dossier? Est-ce
exactement.
Le mot?
Oui, c'est ça, exactement. Je le sais pas, tu sais. Puis heureusement, puis je pense que c'est important de le dire aussi, j'ai rencontré d'exceptionnels spécialistes qui, eux, ont changé ma vie positivement. Je pense à ma neurologue, notamment, Dr Dionne, que j'adore, mon pneumologue aussi à l'UCPQ. C'est important de rencontrer de bons spécialistes. Puis c'est important aussi, si un spécialiste vous fait des commentaires comme ça, bien, allez voir ailleurs, allez demander d'aller voir un autre spécialiste. On ne peut pas accepter de se faire dire qu'on est trop souriant ou trop de bonne humeur, trop sympathique pour
être
malade.
Pourquoi tu penses qu'on t'a répondu ça? As-tu déjà réfléchi à ça?
Je ne sais pas. C'est sûr que je me suis demandé si les hommes ont autant de commentaires de la sorte. J'ai pas la réponse. Je pense que la question se pose quand même. C'est sûr que je pense sincèrement pas que je méritais ces commentaires-là. Je pense que de par ma personnalité qui est assez joviale, de bonne humeur, je pense que j'étais peut-être une cible facile.
De penser que tu étais là pour rien,
que j'étais exactement.
Parce qu'on avait rien. Est-ce que tu as vécu ce genre de jugement aussi dans ta vie personnelle ou professionnelle?
Heureusement, non. Je suis entourée de personnes, d'une famille, des amis qui sont très bienveillants. Donc, non, j'ai pas eu à faire face à ces commentaires-là, bien heureusement, là, du côté personnel et professionnel. C'est sûr que moi, je m'en suis mise beaucoup sur les épaules parce que j'ai tendance à minimiser et puis à dire que tout va bien et que tout est correct. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était difficile parfois de vivre ces difficultés-là et ces échecs-là. T'sais, ça fait déjà plusieurs mois que je suis en arrêt de travail. Donc, c'est sûr que de ce côté-là...
Tu es carriériste en plus.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Donc, c'est sûr que je pense que la bienveillance, je l'ai un peu moins envers moi, mais j'ai la chance et l'immense privilège d'avoir des proches qui en ont beaucoup à mon égard. Ouais.
Le psychologique, là-dedans, tu dis que tu as une santé mentale très, très forte. À un moment donné, est-ce que ça tombe, ça, ou y a-tu des passes plus difficiles? Parce qu'il y a des moments, forcément, que tu as commencé à douter de toi-même. Oui. On doutait de toi-même aussi au médical, mais ça reste que tu vis tous ces maux physiques-là depuis 2011 maintenant. Oui. Est-ce qu'il faut consulter psychologiquement pour s'aider dans cette errance médicale-là?
Bien, je pense que la réponse, c'est oui. Est-ce que je consulte? Non.
C'est honnête.
Ben, je te mentirai pas. Par contre, c'est sûr que oui, il y a eu des moments qui ont été un peu plus difficiles à travers ce parcours-là, surtout depuis 2019. On m'a nommé différents diagnostics, on m'a fait passer différents tests. Moi, chaque fois, je suis pleine d'espoir.
Tu veux juste trouver, fait, peu importe c'est quoi, rendu là, tu n'as même plus peur de
absolument.
Te faire annoncer quelque chose?
Non, tu as entièrement raison. Rendu où j'en suis, je veux simplement un diagnostic. Avec un diagnostic, je pense que les choses peuvent changer. Je peux avoir accès à un traitement. C'est sûr que là, on parle de maladies rares. C'est pas toutes les maladies rares qui ont des traitements. On parle aussi d'une maladie qui est chronique. Donc, je sais que ça se guérit pas. Je tomberai pas en bas de ma chaise quand on va me l'annoncer. Je sais que ça se guérit pas. Mais je sais que souvent, on peut au moins calmer les symptômes. Donc, avec un diagnostic, je pourrais avoir ça.
Pour dormir, avoir moins
mal. Exactement. Puis peut-être recommencer à travailler, puis vivre une vie sociale un peu plus normale. Tu sais, j'ai 34 ans, je pense que je suis encore jeune. J'ai encore des belles années devant moi. C'est sûr que je veux les vivre pleinement. Donc, avec un diagnostic, naïvement, je pense que je pourrais arriver à ça. Puis sincèrement, en toute franchise, je veux un diagnostic pour moi, pour me dire « Colin, j'ai pas fait ça pour rien, puis j'avais raison. » Tu sais, un pied de nez un peu à tous les spécialistes qui ont pas été très gentils.
Peut-être. Ouais. C'est quoi les impacts au personnel? Peut-être, là, tu parlais des relations sociales. C'est sûr que tu sors moins fort, probablement. Ouais. Tu profites moins de ça.
Ouais.
Y a-tu des impacts au niveau de la vie amoureuse? Au travail, ben là, tu es en arrêt de travail.
Ben, c'est sûr que oui. Un des symptômes principaux que j'ai, c'est la fatigue qui est assez importante.
Comment ça se manifeste?
Le matin, je me lève, ça se passe... si j'ai pas trop de douleur, là, ça se passe quand même bien. Si je vais prendre une marche puis je fais la vaisselle, ma journée est terminée. Là.
Ah ouais,
dans l'après-midi, je vais avoir besoin d'une très longue sieste. Là, puis si je fais pas de sieste, à 7h30, je vais être dans mon lit. C'est sûr que comme ma santé mentale va quand même bien, moi, je veux sortir, je veux voir mes amis, j'ai envie de faire plein de choses puis d'aller au restaurant, mais j'ai pas l'énergie pour. Donc, dans une semaine, si j'ai une sortie, ce sera pas mal ça. Ce sera pas mal tout pour la semaine. Là. Ça va me prendre... Ça peut me prendre une couple de jours avant de m'en remettre. Là. C'est sûr, donc, fascinant. Ça a un impact. Là.
C'est fascinant, ça. OK, j'ai une question pour toi, parce que là, on n'a toujours pas de diagnostic. Ça sera quoi les prochaines étapes? Puisque tu as fait une batterie de tests, presque tous les tests qui peuvent exister, en fait, peuvent être en relation avec tes symptômes.
Oui.
À un moment donné, est-ce qu'on perd espoir? C'est quoi la prochaine étape?
À travers ce parcours-là, il y a eu des moments où il y avait moins d'espoir, où les spécialistes me disaient, pas méchamment, mais tu me disais honnêtement, en ce moment, je ne sais plus quoi faire pour toi. Je ne sais pas.
Hey.
Des spécialistes qui me croyaient, mais qui disaient, Émilie, malheureusement, en ce moment, je ne sais plus quel test te faire faire. En ce moment, heureusement, on n'en est pas là. J'ai passé des tests tout dernièrement qui ont mené vers une piste-ish.
C'est quoi ce genre de test-là quand on pense qu'on a tout fait?
En fait, j'ai repassé une autre biopsie. J'ai passé aussi d'autres scans chaque 6 mois. Je passe aussi des tests respiratoires. Donc, avec ça, on peut voir l'évolution des symptômes et tout. Puis, avec les derniers tests, ben là, on s'est dirigé vers possiblement une piste. En ce moment, je teste un nouveau traitement. Puis si ce traitement...
Associé à une maladie que tu ne sais pas si tu l'as, mais tu prends la chance.
Exactement, exactement. Okay. Puis moi, je suis vraiment là, comme je disais, plutôt partante pour absolument tout essayer. Donc là, on essaie un traitement. Puis si ce traitement-là s'avère efficace, bien, je me dirige peut-être vers un diagnostic.
Un diagnostic. Écoute, ouais. Émilie, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent pendant l'entrevue.
Oui.
Entre autres, il y a une femme qui dit « Merci, Pascal, de prendre le temps de recevoir Émilie. Ça fait 8 ans que je suis dans un parcours comme le sien.
Oh.
Le plus difficile, selon moi, c'est le jugement des autres. J'étais une femme très active et ambitieuse. J'ai vécu de nombreux arrêts de travail après de nombreuses années à faire aussi une batterie de tests. On m'a déclarée en invalidité permanente, bien malgré moi. Dans mon parcours, j'ai également eu une évaluation dans laquelle la conclusion était que je ne pouvais pas être malade puisque je n'étais pas dépressive. Mon employeur, ça ressemble un peu à ce qu'on peut t'avoir dit, là. Mon employeur a pris part de tout cela et a dû informer le professionnel que je cachais mes douleurs parce que je voulais toujours intégrer le travail rapidement.
Ouais.
Bon courage, Émilie. Aujourd'hui, je meuble ma vie à seulement survivre aux douleurs et de me faire une vie plus douce. Merci de ne pas me nommer, mais je suis épuisée des jugements des autres.
Oh, mon Dieu, de tout cœur. Avec cette femme-là.
Tu te reconnais
un peu? Je me reconnais énormément. Oui, je pense qu'on a une situation qui est assez
semblable
oui. Ça me touche beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que
t'en parles.
Que j'en parle pour...
Oui, parce que ça fait des années que je veux que tu en parles, parce que je trouve ça important, sans jamais te forcer quand même.
Non.
Oui,
mais
je me dis, puis à travers les témoignages qu'on reçoit des fois dans certains dossiers ou de l'actualité et autres, on sent que ça, il y a des gens qui le vivent. Là, tu as décidé de sortir aujourd'hui. Pourquoi?
Oui. J'ai décidé de sortir parce que je me suis sentie seule à travers ce parcours-là. Et j'ai envie que les gens à la maison ne se sentent pas seuls.
Tu cherchais s'il y avait d'autres gens qui vivaient ça?
Ben en fait, j'aimerais aider les gens qui vivent ça. T'sais, au-delà de moi, je pense que j'ai la chance d'avoir une voix. Je suis capable, t'sais, je suis à l'aise d'exprimer le parcours que j'ai vécu. C'est un privilège. Aujourd'hui, que tu me reçoives à ton émission, c'est un immense privilège. J'ai envie d'utiliser ça pour aider le maximum de personnes possible, puis sensibiliser aussi certains spécialistes. Je pense pas que les spécialistes qui m'ont fait ces commentaires-là extrêmement blessants voulaient être blessants. Je pense pas qu'ils voulaient être méchants, puis je pense pas qu'ils sont incompétents. Je pense pas qu'ils veulent mal faire, mais je pense qu'ils pourraient vraiment mieux faire. Puis c'est pour ça que...
Que tu parles.
Ouais.
Depuis que tu es sortie dans les dernières heures, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté? Tu sais, là, on a au moins un grand courriel. J'en vois d'autres entrer. Oui, tu dis ta boîte...
Oui, ma
Messenger,
boîte...
Messenger, Facebook, elle est remplie.
Mon Messenger déborde de personnes qui m'ont écrit hier... Puis ça me fait extrêmement plaisir. Puis
parce qu'il y a eu un reportage télé
oui.
à TVA qui a
ouais.
touché quand même une grande portion du Québec.
Oui, exact. Puis oui, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit depuis hier. Puis c'est ce qui me touche le plus, en fait, de tout ça. Parce que moi, c'est, comme je te dis, c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. T'sais.
Ça ressemble à quoi, ce qu'on te confie?
Ben c'est, en fait, je me rends compte que plusieurs personnes vivent une situation qui est extrêmement semblable à la mienne, comme le témoignage qu'on vient de recevoir de la dame. Si jamais cette dame-là est encore à l'écoute puis veut m'écrire sur Messenger, ma boîte sera toujours ouverte pour cette femme-là et pour tous les autres qui en ressentiraient le besoin. Mais oui, c'est ça. C'est des témoignages qui ressemblent beaucoup aux miens.
Dans la solitude, dans l'incompréhension,
ouais,
le jugement.
Oui, beaucoup dans le jugement aussi. Tu sais, Je pense que, tu sais, des maladies rares, il y en a des milliers. Puis avoir un diagnostic, dans ce cas-là, ça peut prendre jusqu'à 8 ans. Donc, 8 ans
d'errance
médicale, de vie où certaines personnes doivent continuer à travailler de par leur situation financière. On essaie de vivre le plus normalement possible dans ces années-là, mais c'est difficile. 8 ans, c'est long. On fait face à beaucoup d'embûches, à beaucoup d'obstacles, des obstacles auxquels j'aurais jamais pensé. Puis je me rends compte que, mais Colin, moi non plus, je ne suis pas toute seule. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent ça à la maison.
Ça continue d'entrer des gens qui nous disent « Histoire vécue, depuis 2019, j'ai des problèmes de santé. Il y a un mois, un de mes rendez-vous où je me suis fait dire « Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi on doit chercher un rein qui n'existe pas? » J'ai regardé la personne spécialiste et je lui ai dit « J'en ai aucune idée, je veux juste savoir ce que j'ai. Oui. » Il y a énormément de pertes de temps en santé par manque de professionnalisme, on dirait, ou encore des gens qui sont convaincus de leur performance en tant que spécialiste et qui n'écoutent pas nécessairement l'humain.
Oui.
Un rien, probablement que c'était ça que la personne voulait écrire, non un rein là, qui n'existait pas, mais quelqu'un qui ajoute aussi « Ceux et celles qui se plaignent de tout et rien dans la vie, écoutez cette entrevue. » Parce que là, on parle de ton moral qui est encore bon. Les auditeurs sont avec toi. Émilie Servant, merci beaucoup d'avoir porté ton message dans leur CV aujourd'hui.
Merci, Pascal. C'est vraiment un privilège. Merci beaucoup de m'offrir cette tribune-là. Je l'apprécie énormément.
Si vous voulez lui parler à Émilie, je peux vous mettre en contact avec elle. Elle est très, très généreuse. Et c'est la Journée internationale des compliments. Je dois dire que tu es franchement courageuse, Émilie. Puis, perds pas ton côté positif. Je pense que ça peut aider aussi beaucoup autour de toi, dans l'approche aussi. Par rapport à tout ça, t'as posé des questions et autres, tu es toujours très ouverte. On te souhaite une bonne route dans cette errance médicale, mais surtout qu'elle cesse.
Merci, Pascal.
Un diagnostic, puis peut-être quelque chose pour aider à tes souffrances.
Oui, merci beaucoup, Pascal.
Merci. En musique, on s'en va. Écoutez, Kamakazi, rien entre les deux oreilles. Bon, pas l'associer à certains discours qu'on vient d'avoir en ondes, mais quand même. Merci d'avoir choisi Boulevard 102.1. On avait Émilie Servant avec nous, une jeune femme de 34 ans qui est victime d'errance médicale. Si vous avez manqué l'entrevue, à reprendre sur le site de blvd.fr.